peut-on ressentir lorsqu'on est dans la peau d'un braqueur ? C'est à cette question qu'Ingrid Astier a tenté de répondre de bien belle manière dans son deuxième roman, Angle mort, paru aux éditions Gallimard. L'histoire commence à Aubervilliers par un braquage qui tourne mal et c'est le branle-bas de combat pour la brigade criminelle du Quai des Orfèvres et la brigade fluviale, entre autres, qui vont peu à peu resserrer les mailles du filet autour de Diego, un braqueur énigmatique qui a parfois l'allure chaloupée d'un héros de bande dessinée pour adultes. Tous les ingrédients d'un polar à sensations fortes sont présents dans ce roman qui fulmine de détails très précis sur les lieux, les actions et les sentiments des personnages, qu'ils soient intimes ou professionnels. Ingrid Astier signe là un thriller foudroyant qui laisse perplexe quant à sa démesure et son introspection. Pour écrire ce roman, l'auteur s'est glissé dans la peau du braqueur et s'est immergé pendant un certain temps, autant chez les flics que chez les braquos. A pris des risques parfois, mais a prouvé que le devoir d'un écrivain de polar est de toujours dire la vérité imaginaire. Rencontre avec cette demoiselle qui flirte avec la géométrie variable de la liberté urbaine avec un grand L.
Vous êtes dans la peau d'un braqueur, en parlant à la première personne. C'est un homme, vous êtes une femme. Comment on fait pour arriver à s'approprier vraiment le comportement d'un homme qui, en plus, est plutôt macho ?
Alors, oui, effectivement, Angle mort, c'est un roman qui s'ouvre à la première personne avec Diego. C'est un braqueur de 33 ans qui est d'origine espagnole et qui vit à Aubervilliers dans une hacienda délabrée. Et c'est lui qui parle au début et qui dit « Les armes, c'est comme les femmes, on les aime quand on les touche. J'ai touché très tôt aux armes comme aux femmes. » Donc effectivement, là, on est vraiment dans une voie très masculine, comme vous l'avez dit. Il est dans cette recherche de la dans cette recherche de l'action. Donc ça montre vraiment tout le travail de l'écrivain. Le travail de l'écrivain, c'est un vrai travail en fait d'oubli de soi-même, parce que pour aller vers ces personnages, il faut faire comme le vide en soi pour laisser la place à cette autre voix, et cette voix autre, c'est le personnage qui doit tout envahir. Donc finalement, quand on est écrivain, ben, d'une certaine façon, on aime l'invasion, on aime être contaminé jusqu'à cette forme de dépossession qui est la prise d'assaut du personnage. Et ça, c'est quelque chose de très émouvant. C'est quand, à force en fait de travail, parce que c'est pas du tout l'inspiration qui vous tombe dessus, c'est la voix d'un personnage, c'est du travail, c'est de la musique, c'est une sorte de justesse, d'harmonie, aussi de quête de l'expression, parce qu'un braqueur, il parle pas comme vous et moi. Il a son langage, et même parfois il parle pas, parce que comme il le dit sur un braquage, si on parle, c'est qu'on a mal préparé l'opération. Il dit, et ça c'est leur vrai mot à eux, ils disent, mais quand on a bien préparé l'OP, il n'y a rien à dire. Donc c'est un personnage qui peut aussi être très, très taiseux, très silencieux, très intériorisé. Donc ça, c'est un monde qu'il faut investir. Et pour moi, il n'y a qu'une démarche. C'est une démarche finalement qui aurait semblé naturelle à n'importe quel écrivain de la fin du 19e siècle. C'est une démarche naturaliste, c'est une démarche réaliste, mais au service d'une histoire et de l'imaginaire. Donc il faut aller repérer, trouver des personnes, gagner leur confiance et ensuite s'imprégner jusqu'à l'os de leur réflexe et de leur langage.
Il y a aussi le langage des policiers de l'autre côté, qui est un petit peu là au diard. Donc je me suis posé une question, est-ce que les flics parlent vraiment comme ça encore aujourd'hui ?
Bah, c'est une bonne question, parce que ça prouve aussi que la littérature, c'est vraiment une chambre d'écho, c'est une machine à capter le réel, à capter vraiment notre monde tel qu'il est aussi, tel qu'on le rêve, parce que c'est important de le sublimer par l'imaginaire. Mais moi, je fais un travail extrêmement patient. C'est pour ça qu'il y a 3 ans entre Quai des Enfers et Angle mort, donc cette parution dans la série noire, parce que il faut tout ce temps en fait d'imprégnation de chaque milieu. Donc la façon dont parlent les policiers d'Angle mort, c'est évidemment ce que j'ai entendu et recueilli à la fois au 36 Quai des Orfèvres à Paris, mais aussi avec la brigade anticriminalité d'Aubervilliers. C'est une autre façon de parler aussi, hein, une façon beaucoup plus engagée dans l'action. avec l'identité judiciaire, donc la police technique et scientifique, avec les groupes de répression du banditisme. Donc tout ça, ça a été presque une sorte de captation du vivant et de tout ce que j'ai entendu et vu autour de moi. Et ça, c'est une phase lente. C'est finalement, il n'y a que l'écrivain qui peut se permettre de passer des années comme ça dans une forme de dévotion totale à l'art et à l'imaginaire, en se disant tant que finalement ce langage de mes personnages ne m'est pas devenu complètement familier, complètement naturel, et ben je peux pas me lancer encore dans l'écriture. Donc il faut atteindre ce point où finalement le travail de terrain et l'écriture vont faire un et vont donner la voix, cette justesse des personnages. Et je peux vous assurer que dans le bureau 324 de la brigade criminelle au Quai des Orfèvres, on a vraiment cet humour, on a vraiment cette verve, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sans cet humour et sans cette verve, eh ben, on n'aurait pas cet esprit de groupe qui signe un vrai groupe de la crime au Quai des Orfèvres. C'est ça qui fonde la solidarité, c'est le langage. Il n'y a pas plus, y a pas de ciment plus efficace que les mots.
Moi, le plus beau chapitre et l'une des plus belles scènes de ce bouquin, c'est le moment où Diego passe la nuit avec la demoiselle dont j'ai oublié le nom. Où là, même là, il y a de la violence, mais on sent quand même qu'il y a, au niveau de l'écriture, qu'il y a une certaine tendresse. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de cette scène, parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
Absolument, oui, tout à fait. Oui, ça, c'était aussi un sacré pari, c'était de se dire, bah, tiens, un braqueur aussi, quand il aime, comment il aime? Parce que on est finalement, on est environné par la lecture des faits divers, où on nous parle de façon intempestive des braquages de distributeurs automatiques de billets, mais il n'y a pas un moment où on peut se glisser dans la tête, dans la mentalité d'un braqueur. Comment il vit, à quoi il pense, comment il prépare. Quand il vient de monter au braco, c'est quoi ses réactions? Est-ce qu'il est dans la peur? Est-ce qu'il est dans la joie? Donc ça, je voulais qu'on le sente au plus près. C'est pour ça que j'ai rencontré des vrais braqueurs, en fait. Et pareil, je voulais me dire, ben, quand il aime, comment il aime un braqueur? Et ça, c'est effectivement une des scènes un peu de suspension où il a une forme de... où il se livre. Il y a quelque chose de lui qui finalement se donne. Parce que l'amour, comme la sexualité, s'il n'y a pas de don, il n'y a rien du tout. Et donc là, on a Diego, notre braqueur, qui est prêt à traverser Paris, à prendre des risques aussi pour... il dit c'est comme s'il allait voler une femme sur un cheval, lui part à moto, il la ramène à moto, il la ramène dans son hacienda délabré, donc il la ramène chez lui, c'est pas rien, c'est son territoire, c'est pas sa maison, c'est son territoire, c'est un braqueur encore une fois. Et là son amour, c'est un amour où finalement on sent aussi que très vite il atteint sa frontière, qui est que quand il se donne, il peut que reprendre, parce que s'il se donne complètement, et ben, il se met trop en danger. Parce que je le dis à un moment, c'est par les femmes que l'on tombe. Dans ces milieux-là, c'est le point faible, c'est l'amour, bien sûr. Même si c'est aussi le point le plus fort, parce que c'est celui où on est le plus vivant. Et donc Diego, pendant le temps d'un chapitre, ben, il est extrêmement vivant par l'amour.
Alors il y a le personnage de la sœur aussi. Qui est finalement très discrète. Est-ce qu'à un moment donné, elle n'aurait pas pu tout simplement essayer de lui parler pour qu'il arrête ses bêtises? Elle le fait en aucune façon, au contraire. Elle accepte même, elle connaît, elle sait ce qui se passe. Est-ce que ce personnage n'aurait pas pu devenir justement une sorte de moralisatrice?
Ça, c'est une jolie question, parce que c'était vraiment impossible. C'est comme si vous demandiez à un pur sang de devenir un percheron. C'est impossible. Un braqueur, il a l'adrénaline dans le sang. Il a vraiment ça. C'est son moteur. Et moi, ce qu'ils m'ont toujours dit, c'est que c'est impossible de se priver de ça. Comment est-ce que, du jour au lendemain, vous pouvez passer de vraiment cette vie... alors, je ne le justifie pas, encore une fois, mais comment vous pouvez passer de cette vie, de cette dévotion à l'adrénaline, à d'un seul coup une vie rangée. Ils le disent, les braqueurs. Ils rêveraient de se ranger, de se caser. Ils en rêvent. Mais c'est un rêve impossible, parce que de toute façon, c'est une vie qui finit toujours mal. Ce que disent les policiers des groupes de répression du banditisme ou des brigades de répression du banditisme, ils disent, mais on sait comment ça finit. Un braqueur, soit il finit trahi avec une balle dans le dos, soit il finit en fait en prison. Donc comment on peut faire ce choix? C'est ça qui m'intéressait sur 500 pages. C'est un Angle mort, c'est un vrai roman sur la liberté. C'est quel est le prix à payer pour la liberté? Jusqu'où on peut aller pour la liberté? Artistiquement, quand on est une trapéziste, et quand on est hors la loi, quand on est un braqueur, est-ce qu'on est vraiment prêt à payer sa vie sociale, sa vie sentimentale et parfois sa vie tout court?
Il y a des choses aussi qui me semblent très intéressantes, c'est la musique. Il y a des groupes que je retrouve, comme Molécule, Rammstein, ou encore des groupes improbables qui sont quand même quelque chose de pointu. Est-ce que c'est vos goûts personnels, ou alors c'est vraiment aussi, là, vous vous êtes immiscé un petit peu dans ce qu'écoutait soit le braqueur, ou soit ses copains?
Alors dans un roman, il faut bien retenir qu'on est libre. On n'est pas... On a rien à prouver, rien à démontrer. C'est l'histoire qui a sa propre inertie, qui est son propre moteur. Donc, si j'ai envie qu'un braqueur écoute un morceau, si je décide qu'il écoute D-Damage, il écoute D-Damage. Et ensuite, ce qu'il faut juste travailler, c'est la cohérence. C'est pourquoi il écoute ça. Donc après, moi, j'aime bien piocher très loin et piocher très près quand j'écris. C'est-à-dire que effectivement, j'ai vraiment demandé à des braqueurs ce qu'ils écoutaient. Il y a des vraies réparties de braqueurs dans Angle mort. Par exemple, quand ils disent la paranoïa est la forme aiguë de la conscience, ça c'est une vraie phrase de braqueur. Et quand je dis aussi à un moment un braqueur, il a envie d'écouter des choses douces, qu'un braqueur, évidemment, comme à l'époque, ils écoutaient du Sinatra ou des choses comme ça, ça c'est des vraies phrases de braqueur aussi, parce qu'ils disent, il y a tellement de violence dans nos vies, il y a tellement de choses dures, qu'au moins dans la musique, on a envie de rêver, on a envie de se laisser un peu aller, d'être plus romantique. Et c'est vrai qu'ils peuvent être très fleur bleue par la musique. Ça, c'est absolument vrai. Ensuite, moi, j'ai fait un travail de cohérence, parfois aussi, pour montrer une autre réalité, sous une autre forme, c'est-à-dire la réalité de la vitalité de la musique en banlieue. D-Damage, c'est un vrai groupe de Maison Alfort qu'écoute mon braqueur dans le roman, parce que lui, il est fasciné par les armes. Et donc, il écoute un morceau avec un rappeur serbe, Sin, et il écoute ce morceau parce que c'est le morceau où il y a le plus de coups de calibre. Il y a des vrais enregistrements de coups de calibre. Et on ne trahit pas l'esprit non plus, parce que c'est un vrai groupe de banlieue. C'est un groupe qui travaille sur l'esprit du hip-hop, qui est un esprit du vol aussi. Il y a un côté très Robin des Bois dans le hip-hop. Donc c'est une autre forme d'aborder la vérité des banlieues, mais en même temps en y apportant un regard plus personnel. Et moi, j'estime que l'écrivain est souverain sur son imaginaire et que le dernier mot doit être l'imaginaire.
Votre angle, il est plutôt isocèle, équilatéral?
Moi, en fait, la réponse, elle est très simple, et je vous la dis en toute franchise, c'est que je suis quelqu'un de absolument pas angulaire, parce que je connais que les courbes, je connais que les méandres. C'est pour ça que je me suis intéressée à la Seine, parce que j'ai une fascination pour justement ce refus de la trajectoire des fleuves. Pour ça, Quai des Enfers était le premier roman policier, en fait, consacré à la brigade fluviale, et le personnage central, l'héroïne, c'était la Seine. C'est parce que j'adore ce refus de ce refus de l'autoroute, en fait. Un fleuve, il fait ce qu'il veut aussi. S'il a envie d'errer, s'il a envie de pas aller droit, il va pas droit. Et c'était aussi Flaubert qui disait que finalement, en lui, il n'y avait que son univers qui semblait comme ça tracé, mais qu'en lui, tout était courbe, tout était dans ses arabesques, dans ses volutes. Et je crois que la sensibilité d'un écrivain, c'est vraiment comme les chevaux des branches d'un arbre, quoi. C'est quelque chose où on a besoin de se perdre. C'est très important de se perdre, sinon il n'y aurait pas de rêverie.
Et donc, dernière question, comme c'est l'association Colère du Présent qui organise cette édition du Salon du Livre, je vais vous demander quelle a été votre plus grosse colère cette année.
Je me mets très difficilement en colère, parce que je trouve que la colère est quelque chose de profondément injuste, et qu'il y a des décharges beaucoup plus intéressantes que la colère. Pour moi, l'enthousiasme est quelque chose de beaucoup plus violent aujourd'hui que la colère. Parce que la colère, c'est quelque chose qui obligatoirement va caricaturer l'individu. On n'est jamais beau dans la colère. Et pour moi, il y a beaucoup plus de violence aujourd'hui à ne pas avoir peur de ses enthousiasmes. Et à être vraiment dans une sorte finalement d'enthousiasme parfois sans frein. Et ça, aujourd'hui, je pense que Ce qui fait le plus peur aux gens, c'est la poésie. On a vraiment peur de la beauté. Et c'est pour ça que j'ai mis une trapéziste aussi dans un roman policier.
Ingrid Astier, interviewée pour son deuxième roman Angle mort, paru aux éditions Gallimard, dans le cadre du Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale, 12e édition.